Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre émission On refait le match. Nous parlerons du Paris Saint-Germain battu à Dijon hier. Le Paris Saint-Germain choisit-il les matchs ou le match justement du Paris Saint-Germain a-t-il été raté? Est-ce que le mal est le plus profond que ce que l'on pense, qui n'enlève rien évidemment à l'espoir et à l'exploit de Dijon. Nous parlerons du traitement de Cavani sur le banc hier, puis de la rumeur Ben Arfa à Nantes. Est-ce compatible avec Christian Gourcuff? Et puis Marseille qui affronte Lille en ce moment. Villas-Boas, l'entraîneur, combien de temps encore en cas d'échec? Le score à la pause est de 0 à 0. Prenez votre temps, hein. C'est pas grave, arrivez.
On cherchait Raymond Abou.
Non, mais la prochaine fois, arrivez.
C'est là, moi.
Il n'y a pas de souci. Nous sommes avec Cindy Colmenares. Bonsoir, Cindy.
Bonsoir, bonsoir à tous.
David Aiello de Yahoo Sport.
Bonsoir, mon cher Denis.
Raymond Abou. Bonsoir, Raymond.
Je suis en avance, vous m'avez cité en troisième. Depuis tout à l'heure, j'attends que vous dites mon nom.
Et Sébastien Tarago du journal.
Il n'entre plus dans un studio sans qu'on ait cité son nom au préalable.
Le premier.
Et puis, il y a la place de parking aussi, maintenant. Sébastien Tarago du journal L'Équipe. Donc, nous parlerons du Paris Saint-Germain, accident ou le mal est-il le plus profond, nous verrons ça dans quelques instants. Auparavant, un petit tour avant la pub, un petit tour rapide avec Hugo Hamelin au Vélodrome. C'est la pause, ce score 0 à 0 avec un match assez musclé et pas trop d'occasion.
C'est la pause et c'est l'ennui, effectivement, Denis, ici au stade Vélodrome, alors que la danse, le Mia Cam, est en train d'agir dans les tribunes. Hein, donc c'est une caméra qui filme les supporters et qui doivent danser pendant ce temps-là. Très peu d'action à vous signaler. Un poteau, quand même, du côté de l'Olympique de Marseille, signé Bounassar à la 24e minute. Des Lillois qui procèdent en contre et des Marseillais qui sont dynamiques, qui sont offensifs, mais qui sont très brouillons. Moins de 75% de passes réussies pour les deux équipes. Ça vous donne un peu le niveau technique de ce match. 0 à 0 entre Marseille et Lille à la pause.
A tout à l'heure, Hugo Hamelin se retrouve nous dans quelques instants avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Sébastien Tarago de l'équipe et Raymond Abou.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Sébastien Tarago de l'équipe et Raymond Abou, la première question qui nous intéresse ce soir sur le Paris Saint-Germain, battu à Dijon hier 2-1. Alors d'abord, exploit et bravo à cette équipe de Dijon, parce qu'on va parler évidemment beaucoup du Paris Saint-Germain, parce que c'est le Paris Saint-Germain qui a perdu, mais enfin c'est Dijon qui crée l'exploit. Troisième défaite de la saison en 12 journées pour Paris, après Rennes, Reims et donc Dijon. Première fois depuis que le Qatar est arrivé au Paris Saint-Germain que Paris perd autant. Alors, l'avance de Paris reste évidemment la même. Sébastien Tarago du journal L'Équipe, comment analyser cette défaite, accident ou alors un choix de match du Paris Saint-Germain? On y va tranquille, mais parce que c'est Dijon, c'est les derniers.
Non, mais vous l'avez dit, trois défaites en 12 journées, ça a forcément du sens. Mais moi qui suis souvent très dur avec le Paris Saint-Germain, j'ai envie aussi d'y voir quelques aspects positifs. À savoir que je pense que Thomas Tuchel est vraiment dans la gestion d'un effectif sur la saison, notamment au niveau physique, notamment au niveau des temps de jeu, de la gestion des temps de jeu. Et je lui accorde le bénéfice du doute, même si certains choix me surprennent comme Bernat au milieu, je lui accorde le bénéfice du doute d'une gestion d'une saison. Et en février-mars, peut-être le Paris Saint-Germain sera-t-il meilleur qu'il ne l'était les autres années. Je lui laisse juste ce bénéfice du doute.
Cindy Colmenares.
Alors, pour moi, j'ai hésité un peu parce que je me dis, j'ai bien l'impression depuis un certain temps, et ça ne concerne pas que les matchs contre Dijon, que Tuchel a pris la Ligue 1 pour sa cour de récréation. C'est-à-dire, c'est là où il teste plus ou moins toutes les compositions possibles et inimaginables. Mais en même temps, il faut aussi remettre ça en perspective. Il est vrai qu'il y a eu pas mal d'absents du côté du Paris Saint-Germain et on voit bien la différence lorsqu'un Thiago Silva n'est pas présent. Il faut se rappeler que contre l'OM, c'est bien Thiago Silva avec Kimpembe qui a fait souffrir notre argentin Benedetto. Paquet, mais ça a joué. Mais en même temps, je me dis aussi, les soucis qu'il y a avec Tuchel, c'est que je ne comprends pas pourquoi il met à nouveau, peut-être parce qu'il manque d'effectifs, mais pourquoi il met à nouveau Marquinhos à cette place où il est clairement en souffrance au niveau de sa composition. J'ai du mal, en fait, à comprendre. Mais après, on va voir, comme d'habitude, en Champions League, les PSG risquent de nous faire un super match.
On va rappeler que le Paris Saint-Germain reçoit Bruges mercredi en Champions League. David Aiello, Yahoo Sport. On va rappeler aussi que le Paris Saint-Germain, comme l'indique Cindy, était privé de Thiago Silva et de Verratti hier à Dijon.
Ah oui, ouais, Verratti.
Bon,
peut effectivement toujours s'interroger sur Thomas Tuchel. À un moment aussi, Thomas Tuchel n'était pas sur le terrain. Et hier, le Paris Saint-Germain a fait 20 tirs et il y en a 4 de cadrés. Donc à un moment aussi... Avec une barre et un poteau. Donc à un moment, le manque d'efficacité et de réalisme, en tout cas sur ce match des joueurs, ça a un impact forcément sur le résultat. Je pense que les Parisiens, même avec toutes les modifications tactiques, les chamboulements qu'avait opéré en défense Thomas Tuchel, avaient les moyens quand même largement de dominer cette équipe de Dijon. Donc attention aussi toujours, bon, effectivement, il fait des essais. Comme l'a dit Sébastien, il y a sans doute une gestion à long terme. Et puisque tu parlais un petit peu des effets positifs... Moi, je pense que Paris, quand même, a beaucoup souffert également l'année dernière. Bon, déjà pour son image de ce qui s'est passé à partir du mois de mars. Donc, que le titre ne soit pas plié au mois de décembre, ça sera sans doute plutôt intéressant pour Paris et pour la Ligue 1.
T'as un doute ?
Qu'elle soit pliée au mois de décembre ? Bon. Non, mais elle est pliée au mois de septembre, dans les fêtes. On est d'accord là-dessus. Mais,
parce que trois défaites et pourtant...
Non, mais concrètement, si au mois de février ou au mois de mars, ils pouvaient effectivement être toujours un petit peu sous pression, quel que soit leur résultat en Ligue des Champions, je pense que ça sera plutôt bénéfique pour le club.
Alors, exploit de Dijon, Raymond Abou, ça c'est évident.
Ah oui, les Vénézuéliens, n'oubliez pas quand même, Cadiz.
Oui, Cadiz, et puis ils ont tous fait un gros match. En plus, ils se sont privés de deux joueurs qui sont blessés rapidement. Ils ont joué vraiment au ballon. Victoire méritée. Le PSG choisit ses matchs ?
Moi, je pense que oui. D'abord, bravo à Dijon, comme tu l'as souligné. Bravo à Jobard, qui a mis un 4-4-2 d'entrée. L'entraîneur de Dijon qui a mis un 4-4-2 d'entrée. Ouais, c'est pas un pote à moi.
Non, mais je précise.
Monsieur Jobard, entraîneur de Dijon.
Attends, Raymond, deux secondes, parce qu'il y a un but à Marseille, au Vélodrome. Marseille-Lille, Hugo Hamelin.
Ouverture du score marseillaise ici au stade Vélodrome. Juste au retour des vestiaires, c'est signé Morgan Sanson après un terrible cafouillage dans la surface de réparation. Lillois, je crois que Mike Maignan n'est pas exempt de tout reproche. Marseille qui était très brouillon au cours de cette première période et là qui revient avec de meilleures intentions. 1-0 pour Marseille, même si la VAR va entrer en action. Les Lillois sont en train de se plaindre auprès de l'arbitre principal qui va aller visionner les images sur le bord de la touche.
On reste avec vous, Hugo Hamelin, pour justement voir si la décision sera rapide ou non. Si elle ne l'est pas, évidemment, nous poursuivrons notre débat et notre questionnement.
Carton rouge pour l'entraîneur lillois ou un adjoint plutôt. Je pense un adjoint de Galtier.
Thierry Oleksiak.
Alors, est-ce que c'est Galtier? Est-ce que c'est son adjoint? Je vous avoue que du 7ème étage, j'ai du mal à voir. Je pense que c'est son adjoint. Son adjoint qui est en train encore de protester et qui va sortir. Décision de la VAR en cours, hein, toujours sur le but marseillais, cette ouverture du score de Morgan Sanson, le ballon.
D'accord.
Qui.
Alors, on va laisser finir Raymond Abou sur le Paris Saint-Germain.
Le but est confirmé.
But confirmé.
1-0 pour Marseille.
1-0 pour Marseille, d'accord. Merci beaucoup, Hugo Hamelin, après la confusion et la décision de la vidéo. Donc, Raymond Abou, on revient au Paris Saint-Germain avec Jobard.
Qui choisit ses matchs? Voilà, c'était ça la question. Moi, l'entraîneur Jobard de Dijon, j'ai bien aimé parce que sa composition d'équipe à 2-1 à 10 minutes de la fin et les Dijonais attaquent encore à 5. Donc, ça, j'ai bien aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est le Paris Saint-Germain. C'est la composition de Tuchel, Sébastien l'a dit, avec un Bernat en milieu de terrain. Il a changé des joueurs. Moi, qu'on me dise que Thiago Silva n'est pas là, qu'on me dise que Verratti n'est pas là.
Tu es malade, Thiago Silva.
Oui, mais je veux bien. Ouais, je veux bien qu'il soit pas là. Alors, le Paris Saint-Germain doit avoir les joueurs pour remplacer ces joueurs malades. Devant, il y avait Icardi, il y avait Mbappé. Ça suffit, quoi. T'as Di Maria, ça suffit quand même pour
il
faire.
Il était moins bien, Icardi, sur non, ce match. Je sais
suffit.
Pas si c'est lié à la.
C'est la première fois qu'on le voit rater autant de choses. Ça, ouais. C'est vrai. Mais ça suffit pour battre Dijon. Ça suffit pour mettre les ingrédients pour faire un résultat à Dijon. Et moi, vite fait, pour finir, quand il y a eu 4-0 à la mi-temps contre l'OM, je me suis dit, ça va finir avec 5-6, voire 7-0. Et en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les vedettes. Et moi, j'étais pas content après ça. Et j'ai dit, c'est pas normal de faire les vedettes comme ça et d'arrêter de jouer. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves contre des gamins de 17 ans à Manchester, et ben, t'arrives pas à élever ton niveau et t'arrives pas à tuer les matchs. Quand c'est Dembaba qui, avec Chelsea, marque à la 90e, c'est pas normal du tout. Quand c'est des remontadas, c'est pas normal. Les matchs, il faut les jouer jusqu'au bout. Faut pas s'arrêter de jouer. Ni contre Reims, ni contre Rennes, ni contre Dijon. Voilà, parce qu'en Ligue des Champions, tu le payes.
David Ayew.
Tu le payes. Contre Dembaba, en Ligue des Champions, tu te fais sortir. Mais peu importe.
Bah oui, mais
peu importe. La remontada, c'était pas hier. Et Manchester, c'était pas hier. Peu importe. Tu dois te conditionner contre Dijon. Quand tu es mené, tu mènes 1-0. 1 partout, 2-1, tu dois pouvoir revenir. Il restait du temps, je sais pas.
Après, je comprends, mais.
Sébastien
Tarago, je comprends ce que tu dis. Moi, j'essaie juste de comprendre aussi ce qui peut se passer. Je regarde aussi à l'étranger, je vois le Bayern Munich qui en prend 5 aujourd'hui, je vois le FC Barcelone qui perd, je vois. Bon, je me dis que cette gestion aujourd'hui du Paris Saint-Germain, elle nécessite un peu de temps pour la juger. Je comprends vraiment ton analyse. Arrêter de jouer à la mi-temps contre Marseille, c'est pas forcément très heureux. Mais voilà, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain c'est rendez-vous fin février, c'est tout.
J'entends ce que tu me dis. Attends, je vais répondre à Sébastien. J'entends ce qu'il me dit et je suis d'accord avec Sébastien. Je lui réponds simplement. Les noms de clubs que tu me sors, c'est des noms de clubs qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Faut savoir ce que veulent Paris Saint-Germain. Faut savoir ce que veulent Qatar. Faut savoir pourquoi ils mettent autant de pognon sur la table. C'est pour aller se faire taper à Dijon. Tu me parles. C'est vrai, ils en prennent 5, le Bayern. Le Bayern, ils l'ont, la Ligue des Champions. Le Barça, ils l'ont. Le Real, ils l'ont. Tous ces clubs-là, ils l'ont. Et quand ils, au mois de février, tu parles de février, ils sont là, eux, au mois de février. Ils dorment pas. Ils sont là. Ils sont pas là en train de se faire des passes à 10. Alors, ils marquent les buts.
Moi, je suis assez d'accord avec Raymond sur un truc, c'est que je trouve que le PSG se laisse un petit peu vivre. Il y a pas de réaction. Alors, on mène 4-0, on joue un peu les sénateurs. David Ayello,
justement, c'est intéressant parce qu'il y a nos camarades de l'équipe qui ont relevé une statistique intéressante, c'est que donc il y a eu 9 défaites du Paris Saint-Germain en Ligue 1, voilà. Et la position moyenne de ces équipes-là, c'est 9e justement au classement en Ligue 1. C'est quand même assez révélateur de se dire que, on l'a bien vu face à Marseille, puisque ça fait 10 ans que Marseille bientôt n'a pas gagné au Parc des Princes. On voit bien que Paris, à chaque fois se conditionne contre Marseille, contre Lyon parfois c'est un petit peu difficile,
et
mais
Monaco.
Globalement le bilan est largement positif. Et à chaque fois donc face à ces petites équipes, effectivement il y a un relâchement. Que ce relâchement soit conscient, moi je peux pas y croire. Je crois pas qu'il y a un pro en France qui arrive et qui se dit ça va être facile ce match. Après qu'ils soient inconscients,
c'est normal.
Voilà, mais bien sûr. Et par ailleurs, c'est
bien,
normal.
Mais c'est normal.
Après, c'est aussi là aussi le boulot du coach. Et pour le coup, c'est vrai qu'il le martèle, mais il n'arrive pas à trouver les mots.
C'est normal.
D'arriver à les motiver pour ces
matchs-là. Le problème, est-ce que le fait que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à réagir dans ces matchs-là, est-ce que c'est pas handicapant pour après réagir dans d'autres matchs?
C'est la seule chose où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve Sébastien que le Paris Saint-Germain a réagi après la pause. Finalement, le Paris Saint-Germain a été meilleur. Après, il y a des poteaux. Il y a des occasions ratées.
Ça, c'est
Icardi
vrai.
Rate des choses hier que d'habitude il met. Je ne trouve pas que le Paris Saint-Germain ait eu la suffisance et la prétention d'arrêter de jouer en seconde période. En revanche, il n'y a pas eu l'efficacité, évidemment. Et Dijon, encore une fois, j'ai adoré ce match personnellement. J'en profite brièvement. Mais j'ai adoré ce match parce que j'ai adoré Dijon. Et j'ai trouvé ça fantastique la manière dont ils ont joué. Mais voilà, c'était pas un abandon du Paris Saint-Germain.
C'est assez important d'adorer un match de Ligue 1.
Oui, il a raison.
Ça n'arrive pas souvent.
Ça ressemblait un peu à un
j'en profite pour le
ça
dire.
Ça ressemblait un peu à un match de coupe, d'ailleurs. Il y avait ce côté un petit peu le petit contre le gros, et puis à la fin, le public qui s'est
arrivé. Et il a raison, Sébastien. Le scénario, tu as deux blessés, tu as le gardien qui casse son propre joueur tout seul, et tu as après un joueur qui se claque aussi tout seul, et à la 50e minute, il n'y a plus de changement pour Dijon. Tu te dis que PSG, ils vont les faire exploser. Et puis non. Et Dijon, ils tiennent, et puis même, ils font des contre-attaques à 5.
Pour moi, c'est une stratégie complètement assumé par les PSG. On l'a pas vu contre Dijon, on l'a vu aussi contre Rennes. Pour moi, les soucis aujourd'hui de Tuchel, c'est faire un peu les tests de ces différentes compositions d'équipe. On a vu aussi, parce que vous dites oui, mais c'est pas forcément lié à la composition, parce que
c'est un
aussi,
laboratoire. Alors le championnat, c'est un laboratoire.
J'ai l'impression qu'il a pris un peu comme ça. Mais non, mais quelque part, c'est quoi? Tu le dis, c'est toi-même. Les autres équipes ont déjà gagné la Champions League. Les PSG ne l'a pas gagné. Et Tuchel aujourd'hui, son but, ce n'est pas de regagner encore le championnat français, c'est vraiment d'aller être compétitif en Champions League. Moi, je pense que les joueurs, ils ont été pressants, certainement, peut-être moins pour certains au niveau de l'efficacité, mais ils ne peuvent pas non plus être à l'aise lorsqu'on ne les met pas en condition. Et pour moi, certaines décisions qui ont été prises par l'entraîneur, forcément, ont eu une influence sur ces matchs-là.
On reviendra sur le Paris Saint-Germain. Choisit-il ses matchs ou le mal est-il plus profond? Nous parlerons de la rumeur Ben Arfa à Nantes et également de Marseille qui mène pour l'instant contre Lille, au Vélodrome 1-0 avec un but de Morgan Sanson. Vous êtes sur RTL, nous nous retrouvons avec Cindy Colmenares, David Ayello, Yahoo Sport, Sébastien Tarago de l'équipe et Raymond Abou dans quelques instants. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
Gratuit.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Avec Raymond Abou, Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sport et Sébastien Tarago de l'équipe, nous allons faire un petit tour au Vélodrome. Hugo Hamelin, toujours 1-0. Marseille qui veut peut-être se créer de nouvelles occasions, marquer un deuxième but.
Enfoncer le clou, effectivement, avec des séquences offensives qui sont beaucoup plus nettes qu'en première période pour les hommes d'André Villas-Boas. C'est donc Morgan Sanson qui a ouvert le score juste au retour des vestiaires. But validé par la VAR, puisqu'en fait, Mike Maignan avait capté ce ballon et dans sa chute a percuté l'un de ses défenseurs. Il a lâché la balle et ça a été très facile pour Morgan Sanson de pousser le ballon au fond des filets. Donc c'est un but un petit peu sur un coup du sort parce que jusqu'ici, Marseille n'y arrivait pas. Un seul tir cadré lors de la première période et forcément ce but les a un petit peu libérés, les pensionnaires du Vélodrome, puisqu'ils se montrent plus dangereux désormais. Il a quand même fallu une bonne claquette de Mandanda, c'est à signaler, juste après l'ouverture du score. sur une tête de Benjamin André. Ça fait toujours 1-0 pour l'OM. C'est la 57e minute de jeu ici au Vélodrome.
Oui, on se retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée et tout au long de ce match pour voir si Marseille va tenir le coup et battre Lille, ce qui serait une belle performance pour les hommes de Villas-Boas. On revient sur le Paris Saint-Germain. Bon, on a à peu près tout dit sur le fait de choisir ou non ces matchs. Vous avez quelque chose à rajouter?
On a pas répondu à la question. Mbappé a quand même fait un bon match. Enfin, c'est bien lui qui est assuré dès les débuts à la 19e minute. Et puis surtout, si on voit quand même ces joueurs, cet attaquant qui revient des blessures, qui dès qu'il rentre sur les terrains, soit c'est un doublé, soit c'est un hat-trick, une passe décisive. Enfin, il est quand même en grande forme. Donc moi, je pense que les joueurs, ils ont été présents sur les terrains et que c'est une autre stratégie qui est mise en place.
C'est vrai, mais il ne faudrait pas que Kylian Mbappé, d'un coup, même au Paris Saint-Germain, joue... qu'on ait l'impression qu'il joue tout seul.
Ah non,
je ne dis pas que c'est sa volonté profonde. Il a fait notamment une superbe passe à Icardi. Mais à un moment, je trouve que c'est pas positif pour le Paris Saint-Germain.
C'est un jeu collectif.
Si on donne le ballon à Mbappé, qu'on lui dit vas-y, débrouille-toi. Et j'ai eu ce sentiment hier.
Bon, on avait beaucoup ce sentiment avec David Neymar également. Enfin, je veux dire, là, il a un peu pris cette place-là.
C'est ce qu'on fait souvent avec les grands joueurs. Non,
mais je suis pas sûr parce que.
Je préfère quand ça ressemble à un jeu collectif.
Il y a quand même des équipes dont on sait.
Mais quand tu donnes la balle à Zidane ou à Platini, tu sais.
Denis, je suis pas d'accord avec ça.
Zidane, par exemple, pas du tout. Zidane était toujours dans le sens du jeu. Vous voyez rarement Zidane dribbler 6 joueurs. Ouais. Il faisait des différences autrement et en équipe. Mbappé hier,
ce que je veux dire, c'est quand t'es emmerdé, tu donnes le ballon.
Oui, mais ça c'est autre chose. Non, mais là, c'était vraiment Mbappé, puis après Mbappé, hop, il essaie de.
Non, mais ça veut dire que les matchs ont quand même été pris sur sérieux. C'est juste qu'il a manqué quelque chose d'autre. Pour moi, c'est un élément.
Si tu prends le match au sérieux à partir de la 45e, c'est un peu tard. La question.
Non, mais après juste... attends, ils rentrent, ils se font assommer à nouveau par les buts.
La réponse, c'était est-ce que le Paris Saint-Germain a choisi ses matchs. Moi, je réponds oui, il choisit ses matchs. Voilà.
Oui, tu veux dire pas que t'es le seul à avoir répondu.
Oui, Paris Saint-Germain.
Non, pas les seuls. Moi, je pense que, c'est pas un laboratoire, mais alors, oui, il y a quelque chose. Oui.
Alors, sur le fait de choisir ses matchs ou non, bon, est-ce que le mal est plus profond? Bon, Tourelle, il fait ce qu'il peut aussi avec ses joueurs. Moi, je suis pas.
Enfin, il fait ce qu'il peut avec ses joueurs. Autant l'année dernière, on pouvait dire
Paredes,
effectivement,
il y avait des carences.
Il y avait des carences dans l'effectif, etc. Mais aujourd'hui, Thomas Tuchel peut plus se cacher derrière ça, et on peut pas non plus présenter son effectif comme étant une excuse où il fait avec ses joueurs.
Il suffit de regarder le 11 de Dijon, le 11 de Paris.
Non, mais c'est la question de savoir est-ce qu'ils sont bien armés pour une Champions League pour aller loin. Oui.
La Champions League, oui, c'est là ils vont recevoir Bruges. On peut penser qu'ils vont faire le.
Oui,
jeu,
non, mais même en plus long terme, je pense.
Mais ce qui me gêne, on va quand même pas commencer à parler de Champions League là pour Paris Saint-Germain au mois d'octobre, alors que ça fait des années. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on va comment on va pas commencer à tirer des plans sur la comète avec le Paris Saint-Germain au mois d'octobre.
Non, moi je tire.
Ils ont fait
3
bons matchs avec des champions. Mais non, mais je veux dire, on
n'est
pas vacciné ou quoi?
Non. Là, pour moi, c'est aussi par la façon dont ils sont armés aujourd'hui. Je ne le dis pas en voyant juste un match contre Dijon, même si Dijon a fait un match.
On a dit la même chose l'année dernière, il y a 2 ans, ils étaient armés.
Mais tout à fait, mais là, l'effectif n'est pas le même. Si tu vois Andy Maria en place internationale à Icardi qui te joue comme ça, je pense qu'ils sont favoris pour aller loin.
C'est anecdotique, les 8 défaites en 2019, c'est la première fois depuis 2010. Il y en avait 13, c'était pire.
Anecdotique.
C'est jamais anecdotique.
Sébastien Tarrado de l'équipe.
Pas. C'est jamais anecdotique. Quand vous perdez 3 matchs sur 12 en Ligue 1, c'est jamais anecdotique. La seule chose, c'est on saura dans 2 ou 3 mois comment l'analyser. Est-ce qu'il y avait de la maîtrise? Est-ce qu'il y avait de la gestion? Est-ce qu'il y avait de la planification de la part du club et de l'entraîneur? Ou est-ce que c'était un manque justement de maîtrise? Et ça, aujourd'hui, personne n'a la réponse.
Tu fais un
David Ayello,
je pense qu'on est obligé de faire une distinction entre ce dont tu parles, toi, Sébastien, pour l'analyse. Tu parles des 3 défaites sur les 12 premières journées de Ligue 1.
Oui, mais je ne compte pas les autres. Parce que voilà, la fin de saison.
Exactement, j'allais dire qu'on ne peut pas mettre dans le même lot et analyser ce qui se passe actuellement avec les défaites post-Manchester qui étaient liées évidemment à ce cataclysme.
Alors on va parler, on avait abordé ça samedi dernier aussi. Bon, là, c'est un peu plus profond. On parlait de mal profond. Cavani, le Paris Saint-Germain va jouer à Dijon. Alors c'est vrai que Icardi avait une bonne stat, 7 buts lors des 5 derniers matchs, c'est difficile de le sortir. Maintenant, c'était quand même l'occasion de le relancer, Cavani. Sébastien Tarrago de l'équipe.
Mais là aussi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est-à-dire que je me souviens d'une interview de Leonardo chez nos confrères de Canal+, je crois qu'en 2012, où il parlait de Néné. Et il disait, parce que tout le monde se scandalisait, parce que Néné ne jouait plus au Paris Saint-Germain. Ou pas assez aux yeux des médias notamment. Et Leonardo disait, mais attendez, mais moi je ne suis pas là pour donner des récompenses aux gens. Ils ont joué, ils ont fait leur travail, ils ont été payés pour ce travail, et à un moment, les données, elles changent. Aujourd'hui, je ne suis pas choqué, loin de là, que Icardi, malgré son manque de réussite hier, soit devant, pardonnez-moi, j'en oublie
Cavani.
Son nom.
Cavani
malgré, oui, mais moi, malgré son, peut, son incroyable
histoire. Ce qui peut être gênant, est-ce que c'est clairement dit, ça?
C'est-à-dire par qui?
Il a dit.
Les choses, elles sont à peu près claires pour tout le monde aujourd'hui. Je pense que Cavani, en Ligue des Champions aujourd'hui, si tout le monde était présent, il serait le cinquième, voire le sixième. C'est-à-dire qu'il y aurait Di Maria, il y aurait Neymar, il y aurait Mbappé, il y aurait Icardi. Et lui, il arrive derrière tout ce monde-là. Mais c'est normal, il est blessé tout le temps depuis des mois et des mois.
Oui, mais Sébastien, la question qu'il peut se poser, d'accord avec toi, c'est pas forcément choquant sur les performances d'Icardi. Icardi, comme l'a dit Tourelle, effectivement, difficile de sortir un attaquant qui a eu ce rendement-là. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est la gestion de Cavani. Finalement, quand tu te dis, il a pris du temps pour se soigner, etc. Là, on sait qu'il est opérationnel pour débuter un match, au moins depuis deux matchs, et que dans la gestion de ce joueur-là, qui est un joueur quand même important, et je ne te dis pas parce qu'il a ce statut-là, il faut le titulariser, mais quand même, c'est un élément important de l'équipe. Ne pas le prendre en considération, se disant, c'est un match à Dijon, quand même, c'est peut-être pas mal pour se relancer, etc. Je trouve ça au moins questionnant et peut-être même révélateur peut-être de ce qui se passe dans la tête de Tourelle vis-à-vis de Cavani.
Mais parce que moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait les mêmes choses avec tout le monde, finalement?
C'est-à-dire
que Cavani, c'est un joueur historique du Paris Saint-Germain, ouais. C'est devenu un joueur historique. Est-ce qu'on le traite comme un joueur de 25 ans qui n'a rien fait?
Enfin, au fait, à chaque fois, c'est triste, hein, mais à chaque fois, Cavani a toujours été présent. Et quoi que l'on puisse dire, moi, je pense
que c'est un joueur qui a toujours été aussi
qui a sauvé les PSG plusieurs fois. Donc, quand il y a eu Zlatan, sa place a été remise en cause. Quand il y a eu Neymar avec son arrivée, ça a été compliqué également. Donc, j'ai l'impression qu'il est toujours. Il y a une certaine classe, même si je suis d'accord que les joueurs qu'il faut mettre sur les terrains, c'est les plus efficaces, parce qu'il n'y a pas des sentiments, mais il y a aussi une certaine classe à avoir dans la façon dont tu gères aussi ton effectif.
Sébastien, ça, c'est très important.
Parce que ça aussi, c'est la vision qu'ils peuvent avoir. Non, mais c'est aussi la vision qu'ils peuvent avoir les autres équipes d'un recruteur.
Je te laisse même finir une deuxième fois.
Voilà.
Sébastien, t'as raison.
Merci, Cindy, tu es bien gentil. Edinson Cavani, malgré tout le bien que je peux penser de lui, notamment dans l'état d'esprit, il ne faut quand même pas oublier, me semble-t-il, qu'il était là lors des dernières années. Donc on ne peut pas l'exonérer non plus des échecs considérables du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est pas parce que ce garçon mouille le maillot et sait aussi communiquer avec les supporters, ne l'oublions pas, qu'il n'a fait que des choses positives. Sinon, le Paris Saint-Germain, il l'aurait gagné, la Ligue des Champions, Cindy.
Surtout qu'il
Moi, je ne dis pas que c'est que Cavani,
mais c'est, visiblement, tu as oublié qu'il était dans cette équipe ces années, les années précédentes.
Il a plus fait que défait.
Donc ça veut dire que Mbappé, on peut devenir
sur les matchs importants de Ligue des Champions, Cavani n'a pas pesé. Parce que son bilan en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, il est positif. Il a marqué une des stats assez intéressantes. Mais sur les matchs concrets, j'allais y venir, sur les matchs importants, sur les huitièmes, sur les quarts, il a eu tendance à disparaître. Il n'a jamais existé dans ces matchs-là.
Et en plus, il y a une réalité du terrain. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez les autres joueurs, Di Maria, Mbappé, ils ont plus de facilité à jouer avec Icardi qu'avec Cavani. Ça, c'est la réalité. Voilà, c'est comme ça.
Vraiment,
et ça, personne ne peut lutter.
Moi, ça dépend du projet, en fait. Le projet, qu'est-ce que c'est? C'est tenir tout le monde éveillé. Tenir tout le monde éveillé pour la Ligue des Champions et faire un bon parcours en Ligue des Champions. Ça veut dire que là, tu pouvais, selon moi, hier, tu pouvais mettre Cavani titulaire tout en disant à Icardi, t'as 7 matchs, 7 buts, on va te reposer. Maintenant, Cavani, il va avoir du temps de jeu. Je pense que c'est Dijon. Je pense que Cavani, pour moi, c'est quelqu'un au PSG. C'est pas rien. Ibra, c'est 150 buts. Moustapha Daleb, je parle des grands noms du Paris Saint-Germain, c'est 100 buts. Pauleta, c'est 100 buts. Rocheteau, c'est 100 buts. Weah, c'est 50 buts. Tu peux revenir à tout le monde. Rai, c'est 60 buts, même en restant moins longtemps. Ouais, Cavani, il arrive à 200 buts.
Je suis assez d'accord.
200 buts et tu le considères comme un clochard. Tu restes sur le banc de touche et tu rentreras. Quand Icardi, ça y est.
Un clochard à 18
ça
millions.
Ça y est. Non, je parle pas d'argent. Je parle pas d'argent. Je parle de management. Je parle pas d'argent. L'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est juste de dire que Cavani, tu peux respecter un peu plus que ça.
Pourquoi?
Icardi, 7 matchs, 7 buts, c'est bien. Il a mis ses 7 buts contre qui?
S'il est titulaire à Bruges,
d'accord,
on en reparle.
D'accord. Et si Icardi se blesse et que Cavani, tu l'as complètement perdu et tu l'as sorti du groupe,
ce que je n'arrive pas à comprendre dans vos raisonnements.
T'es pas sur le projet de la Ligue des Champions.
Ce que je n'arrive pas à comprendre dans vos raisonnements, c'est que d'un côté, vous reprochez à Tourelle de ne pas mettre la meilleure équipe à Dijon et de choisir ses matchs, Et de l'autre côté, on a quand il met Icardi qui est le numéro 1 aujourd'hui, il ne respecte pas.
On n'a pas reproché de ne pas mettre la meilleure équipe. On a reproché l'état d'esprit des joueurs qui choisissent leur match.
Et puis surtout là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est le fait de conserver, même si c'est un joueur, il doit faire son devoir.
Tu parles fort aujourd'hui.
Il est payé.
Je dois avoir un problème à l'oreille.
Non, c'est du parles pas fort, c'est bien.
Sur la route.
Non, mais le fait c'est de concerner Cavani, de le rester, qui reste concerné, même si c'est un salarié du club, qu'il a fait beaucoup, etc. C'est vrai que de le baser un petit peu comme ça dans un match où il pouvait rentrer, pour moi, c'est.
Il est entré, hein?
Oui, non, il est rentré à 20 minutes, 25 minutes de la fin.
Titulaire ou rentré au moins une mi-temps. Enfin voilà, ça
se discute. Et le pire,
il va dire que je parle fort, Sébastien.
Non, mais parle pas fort.
Fais la même chose sans monter dans les tours.
Non, je vais continuer. Le pire, c'est quand il est rentré, il a bien joué avec Icardi. Donc elle-même, t'es même en train de te dire pourquoi il l'a pas mis au début. C'est une gestion, c'est oral.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Cindy Colmenares, David Ayello d'Eurosport, Sébastien Tarago de l'équipe et Raymond Abou. Nous parlerons d'Atem Ben Arfa, la rumeur l'emporte à Nantes. Est-ce que ce sera compatible avec Christian Gourcuff? Et puis Marseille. Marseille qui mène devant Lille 1-0 en championnat. Depuis quelques instants, il reste 68 minutes de jeu, pardon, à Marseille. Il reste donc un petit paquet de temps là pour que les Marseillais puissent enfoncer le clou, comme le disait Hugo Hamelin. À tout de suite sur RTL.
Hannibal Beer sur RTL. On refait le match.
RTL, il est 19h. L'information, Sébastien Rouxel, bonsoir.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. On l'a appris il y a quelques minutes, un militaire français est mort au Mali, annonce ce soir de l'Élysée. Il a été tué ce matin après le déclenchement d'un engin explosif lors du passage de son véhicule blindé. Emmanuel Macron salue son sacrifice et exprime ses pensées vers ses camarades engagés dans les opérations au Sahel. C'est la première fois qu'une agression de ce type a lieu dans un commissariat de La Réunion. Un homme de 20 ans est soupçonné d'avoir agressé une femme à l'arme blanche en criant Allah Akbar. Il lui a placé un couteau sous la gorge avant d'être maîtrisé par la police. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire et apologie du terrorisme. Attention, si vous êtes dans l'ouest de la France, la tempête Amélie s'approche. Elle devrait toucher le littoral atlantique en deuxième partie de nuit. 15 départements de l'arc atlantique jusqu'au massif central désormais placés en vigilance orange au vent violent. On attend des rafales pouvant dépasser les 130 km/h, mais aussi de la pluie et quelques coups de tonnerre. Dans le reste de la France, le temps sera pluvieux demain avec tout de même quelques éclaircies sur une partie du littoral méditerranéen. Les températures, elles seront assez douces en matinée entre 7 et 15 degrés. Dans l'après-midi, elles seront comprises entre 11 à Aurillac et 21 à Ajaccio. Le trafic ferroviaire toujours perturbé. Demain, seuls 8 trains sur 10 devraient circuler sur l'axe atlantique. Le mouvement social se poursuit au technicentre de Châtillon. La situation devrait tout de même s'améliorer la semaine prochaine. On attend 9 trains sur 10 en direction de l'ouest dès lundi. Sur les routes, en revanche, ça roule plutôt bien. Tout de même, quelques points de blocage, Pierre Collat.
Oui, la principale difficulté ce soir, c'est sur l'autoroute A4. Ça vous concerne si vous roulez depuis Strasbourg ou Reims en direction de Paris. Il y a 7 km d'embouteillage qui commence après la sortie 13 Marne-la-Vallée. Le trafic est ralenti jusqu'à Nogent-sur-Marne. Et puis, on signale une voiture accidentée beaucoup plus au sud. C'est sur l'A51 en direction de Marseille, à hauteur de Septem-les-Vallons. C'est juste avant l'intersection avec l'A7. Soyez prudents.
Médical CA.
En tennis, on connaît donc l'affiche en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Shapovalov affrontera Djokovic pour le titre. Le Canadien n'a pas eu besoin de disputer sa demi-finale. Blessé à l'entraînement, Rafael Nadal a déclaré forfait quelques minutes avant le début du match. Djokovic, lui, s'est imposé en 2-7 face à Dimitrov, 7-6, 6-4. Et puis les Springboks rejoignent les All Blacks. L'Afrique du Sud a remporté sa 3e Coupe du Monde après sa victoire sur le 15 de l'Angleterre. Score final 32-12. RTL, il est 19h03. On refait le match, revient tout de suite et c'est toujours avec vous, Denis Balbir.
Merci Sébastien Houssel, à tout à l'heure, 20h.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
Réconomisons-la. Passez une bonne soirée avec RTL.
La suite, on verra.
Denis Balbir sur RTL,
on refait le match.
Nous sommes avec Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sports, Sébastien Tarago de l'équipe et Raymond Abou
J'ai réglé pendant le flash info et les pubs, j'ai réglé.
C'est vrai, t'inquiète pas, on va t'énerver encore un peu.
Alors j'ai un sondage Odoxa, RTL, Groupama, une enquête que reprendra tout à l'heure Christian Olivier, certainement dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Qualification en huitième de finale pour le Paris Saint-Germain, bien engagé pour les Français à 77%, il n'y a pas de surprise, 21% pour le LOSC et 50-50 pour l'OL selon les Français. Par contre, sur l'arrivée vraiment, le drapeau qui se lève à l'arrivée, le PSG. Ah. Le PSG favori pour la victoire finale, 21%, devant le Real, 17% et le Barça, 12%.
C'est beaucoup, c'est 21 déjà.
C'est un vrai cocorico, quoi. Ça.
David, dans les pronostics, on peut toujours faire cocorico, mais c'est après que ça se gâte. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, de cette enquête?
Qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que
je pense qu'elle est
extrêmement difficile déjà dans l'absolu de se prononcer sur le vainqueur final au mois d'octobre. On sait que voilà, la vérité du printemps n'est pas celle de l'automne. Et qui plus est pour le Paris Saint-Germain, compte tenu de ce qui s'est passé les saisons précédentes, du fait que ce groupe quand même reste le noyau dur de ce groupe, les cadres de ce groupe restent quand même les mêmes, ceux qui ont connu ces échecs. Alors, on peut toujours se dire qu'on va se nourrir de ces échecs et qu'au bout d'un moment, on va en tirer des leçons, ou pas.
Mais ce qui est amusant, Raymond Abou, pour cette enquête, c'est que tous les ans, et là c'est inscrit même dans l'enquête, les supporters du PSG notamment, mais même les Français disent, allez, cette année, c'est la bonne.
Un jour, ils auront raison.
Un jour, voilà, c'est ça.
Ah, c'est sûr que si tu dis ça 30 ans...
À force de dire des conneries tous les jours, il y a forcément un jour où tu as raison. Donc ça c'est, je le fais moi tous les jours. À force de dire des conneries, des fois, je tape dedans, je tape en plein dedans. Là, c'est pareil, on est au mois de novembre, il va falloir parler d'un truc qui va arriver au mois de mai. Comment c'est possible avec les équipes sur qui tu vas tomber, avec l'effectif que tu auras, des blessés, pas des blessés, ce que vont faire les autres en face, c'est complètement improbable. C'est comme si on faisait un sondage et on allait dire sur le sondage 50% des Français disent que c'est Sébastien Tarrago qui va présenter au refait le match l'année prochaine.
Écoutez, pareil, combien,
c'est
combien
50% des Français, c'est pareil,
va savoir,
c'est des trucs improbables.
Christian Olivier nous écoute-t-il?
On va laisser le Paris Saint-Germain de côté parce qu'on en a fait quand même beaucoup
cher,
le PSG, sur Cavani, Icardi, et puis sur le cas du PSG qui a été battu hier à Dijon. On va partir à Marseille à un quart d'heure de la fin, toujours 1-0 pour les Marseillais, Hugo Hamelin.
Oui, ça y est, on est entré dans le dernier quart d'heure, 1-0 pour l'OM, but signé Morgan Sanson juste au retour de la mi-temps, 47e minute, après un cafouillage dans la surface de réparation lilloise. Ça s'est beaucoup équilibré hein, parce que Marseille était parti pied au plancher sur la deuxième période, mais un seul homme, un très jeune homme, a d'ailleurs fait reculer tout le bloc marseillais, c'est Victor Osimhen qui est entré en jeu il y a maintenant 15 minutes. Il n'a pas eu le temps de se mettre beaucoup en valeur, mais on voit un Ikoné très rement, et puis un Jonathan Bamba qui est entré aussi. Là, c'est Benjamin André qui a le ballon, qui va pouvoir s'entrer dans la surface de réparation marseillaise. Contré par Amavi, nouveau tir lillois, encore contré par la défense marseillaise qui commence un peu à se recroqueviller. Premier changement du côté d'André Villas-Boas, c'est l'entrée de Nemanja Radonjić à la place de Bounassar qui jouait ailier droit ce soir. On en parlait hein, André Villas-Boas dans les titres, et c'est compliqué pour lui là, il tâtonne, il n'a pas encore de style de jeu, il a changé 4 fois de schéma tactique sur les deux derniers matchs. Bon, c'était particulier, c'était Paris et Monaco en Coupe de la Ligue, 2 défaites, et puis là gros changement, grosse surprise quand même dans cette composition d'équipe, c'est Camara qui est titulaire en sentinelle pour la première fois depuis 2 ans je crois, à la place de Strootman qui n'est pas blessé, qui est sur le banc, mais voilà, Strootman, le cadre, a été sorti et Camara donc propulsé au milieu de terrain.
Oui, puis il y a eu aussi Hugo, quand on parlait de composition d'équipe, l'avancée de Bounassar hein, qui retrouve un petit peu ses années Messine avec Nbakoto en étant plus en avant.
Elles sont loin malheureusement, les années Messine de Bounassar, quand il arrivait à dribbler 3 défenseurs sur le côté droit, à marquer ensuite. Là, son apport offensif est beaucoup moindre depuis qu'il s'est habitué en fait à ce nouveau poste de latéral droit. Lui-même se définit maintenant comme un latéral droit.
Alors on se retrouve évidemment avant la fin du match. Pour l'instant, en tous les cas, Marseille tient le bon bout et mène devant Lille. À noter que l'entraîneur lillois Christophe Galtier a l'air passablement énervé pendant ce match, sans doute un sentiment d'injustice par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure sur le but, et pourtant le but paraît évidemment valable hein, de Marseille. Une rumeur qui circule depuis alors ça fait quand même un paquet de rumeurs hein, sur Ben Arfa, retour à Nice, Saint-Étienne, l'Espagne, l'Italie. Ben Arfa serait proche de Nantes.
Non mais pardonnez-moi,
Sébastien Tarrago,
on n'est pas dans le domaine de la rumeur. Ben Arfa et Nantes sont en discussion.
Voilà, c'est Damien Degord dans l'équipe qui en a parlé en premier, et c'est une réalité. Est-ce que ça se fera?
Il y avait une réalité avant qu'il était proche de Saint-Étienne aussi.
Je sais pas. Moi, en tout cas,
Sébastien Tarago,
j'ai jamais vu ça. Et en tout cas, il y a des discussions. Après, est-ce que ça va se faire? C'est une autre musique. Aujourd'hui, c'est plutôt Ben Arfa qui a les clés en main. Savoir ce qu'il veut vraiment faire de sa vie, de sa carrière, et puis après Nantes est prêt à prendre le risque.
Est-ce que c'est compatible avec Christian Gourcuff, Cindy Colmenares?
J'aimerais voir ça.
Alors non, moi quand je faisais allusion à tous ces clubs desquels il était appelé, c'est parce que c'est vrai que pendant les mercato d'été on a entendu tout et n'importe quoi. Par rapport à Gourcuff, il y a deux choses. En fait, Ben Arfa est un joueur qui a passé un bon moment inactif depuis mai. Mais
pardon,
c'est aussi
Cindy, il y a un but à Marseille, oui. Hugo Hamelin.
L'OM qui enfonce le clou. Cette fois-ci, c'est signé Dimitri Payet. Et c'est encore une fois, après un cafouillage extraordinaire dans cette surface de réparation. Le mouvement était bien parti côté gauche. C'est Maxime Lopez qui vient de rentrer, qui fait un centre en retrait. Alors, coup de billard dans cette surface de réparation. Dario Benedetto qui parvient à remettre sur Dimitri Payet. Tête plongeante du numéro 10 marseillais, je crois que c'est encore touché par un défenseur et ça rentre poteau rentrant. Vraiment chanceux les Marseillais sur leur deux buts, mais voilà, le résultat est là, ça fait 2-0 et c'est même un but contre son camp de Gabriel, déjà impliqué sur l'ouverture du score. C'est lui que Maignan avait percuté. Très très mauvaise soirée pour le défenseur lillois, puisque maintenant à 11 minutes du coup de sifflet final de la fin du temps réglementaire, et bien l'OM mène 2-0.
Et bonne performance comptable pour l'Olympique de Marseille. Merci Hugo Hamelin, on se retrouve dans quelques instants. Cindy Colmenares nous parlait de Christian Gourcuff et de l'arrivée probable, possible, de Hatem Ben Arfa.
Alors Ben Arfa, clairement, s'adapterait, je pense, très bien à Nantes. Pourquoi? Parce que c'est à son poste de milieu offensif. C'est un très bon dribbleur. C'est un gars qui aussi s'est joué très bien au niveau tactique. Donc c'est vraiment ce qu'il faudrait à cette équipe. D'un autre côté, on a aussi remarqué que Gourcuff, c'est un entraîneur qui aime beaucoup les collectifs. Et Ben Arfa, souvent, on a ses échos et on a pu les voir aussi sur les terrains. Il aime bien marquer. C'est un joueur qui aime bien briller lui personnellement, et je me demande dans quelle mesure, en tout cas s'il arrive à Nantes, et je ne le mets pas en doute, je pense que ça serait d'ailleurs une bonne idée, il faudrait en tout cas qu'il puisse s'adapter au projet nantais, au projet des Nordclubs, et ça, il faut voir.
La question elle est pas là, parce que à mon avis c'est du court terme. Donc
oui,
c'est
bah
pas
oui,
un souci,
il a 32 ans,
mais non, mais parce que de toute façon il s'engagera. Non, bah 32 ans, il pourrait, mais il va a priori il s'engagera attention. Pas sur le long terme. La vraie question, c'est de savoir dans quel état physique il est.
Oui, ça
oui,
aussi.
Oui, il a un préparateur physique depuis
il
l'été
deux
dernier.
Fois par semaine,
oui,
mais
ça n'a rien à voir.
Mais
avec
ça n'a
voilà. C'est sûr s'il fait du footing autour du bois de Boulogne.
Et il joue au five avec des potes. Mais ça c'est pas possible. Donc à mon avis, juste je veux bien finir, Cindy, ça te dérange pas.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Juste savoir dans combien de temps il sera prêt. Et à mon avis, il faut 2 mois. Il faut au minimum 2 mois, c'est pour la trêve. Au minimum.
Ouais. David Aiello, Yahoo Sport.
Moi, j'en ai un peu marre de parler d'Hatem Ben Arfa. Non, mais, je dis pourquoi. Non, mais en fait, je suis lassé de ce joueur parce que voilà, c'est un joueur qui avait un potentiel incroyable. Et puis, ça fait en fait maintenant quoi 5-6 ans qu'on. Enfin, non, depuis depuis sa dernière saison à Nice, qu'on est là tout le temps à se demander mais où est-ce qu'il va atterrir et qu'est-ce que ça va donner. Rennes, à un moment, on s'est dit bah, tiens, pourquoi pas. Puis, non, finalement, c'est comme d'habitude. Et quand on regarde sa carrière, finalement, c'est. Ça se résume à cette belle saison niçoise sur la durée, je parle vraiment, et c'est tout.
Il y a eu du gâchis, mais quand même,
sa saison à Nice, c'est 18 buts. Oui. Sur le reste, c'est.
Mais on peut oublier aussi son importance.
À chaque fois, c'est entrecoupé de moments de disparition, etc. Donc, je trouve ça déjà dommage pour lui et pour le football, mais moi, aujourd'hui, je suis lassé.
Très bon à bout.
Moi, je suis d'accord avec toi, Denis, quand tu dis 32 ans. 32 ans, pour moi, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il doit faire sur le terrain. Il doit exploser, il doit dribbler, il doit aller provoquer, il a besoin de puissance dans son jeu. Le schéma de Gourcuff, on le sait, c'est des schémas de jeu, c'est pas de l'individualité, c'est surtout des jeux en passe, c'est surtout des schémas. Donc ça peut être une bonne idée, comme le dit Sébastien, pour qu'il vienne à court terme. Sauf que pour moi, Ben Arfa, c'est mon avis, il sera pas prêt avant janvier, voire février. Il restera 3 mois de championnat. Donc est-ce que tu le refais signer après pour les prochaines, sachant que l'autre, il est parti à Rennes. Rennes l'a sorti du foutoir du Paris Saint-Germain. Il est cette saison, il est parti comme une star, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu un problème avec les temps ou je ne sais pas quoi.
Non, pas avec les temps, avec l'entraîneur.
But à Marseille, Hugo Hamelin.
Réduction du score lilloise à l'instant, une tête catapultée dans le but de Mandanda et un léger moment d'octogone là dans le but de Mandanda puisque le gardien marseillais voulait pas rendre le ballon à Victor Osimhen. C'est d'ailleurs le jeune attaquant lillois qui prend un carton jaune là-dessus. C'est en train de s'expliquer les deux hommes, ça s'est calmé, mais ils étaient une dizaine dans le but marseillais, joueurs des deux équipes confondues. Ça fait 2-1, c'est la 83e minute et il peut encore se passer des choses dans ce match effectivement, ouais. Puisque Galtier a fait rentrer ses trois éléments offensifs qui étaient sur le banc, Osimhen, Bamba et Arojo.
On reste ensemble évidemment avec Hugo Hamelin qui nous racontera ce qui se passe au Vélodrome, la suite de Marseille. Nous évoquerons la suite aussi d'Athem Ben Arfa à Nantes avec David Ayello, Diéo Sporting, Nicole Ménares, Raymond Abou et Sébastien Tarago du journal d'équipe. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
On a
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Je vous rappelle que Marseille mène devant Lille sur le score de 2-1. Je vous rappelle également, si vous ne le savez pas, que Lens, c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters du Racing Club de Lens, a pris la tête, en tous les cas co-leader de la Ligue 2, en battant Lorient sur pénalty, me semble. En tous les cas, belle victoire des Lensois qui se replacent dans la course à la montée, ce qui sera effectivement, comme le disait Raymond Abou, une bonne nouvelle pour tous les amateurs de football, de public.
Pour le public Lensois déjà.
Le public qui sera récompensé 40, d'une grande patience. Donc Athem Ben Arfa à Nantes, on parlait de la compétition. Compatibilité entre Christian Gourcuff et Athem Ben Arfa, Sébastien Tarago, au-delà sur le long de l'état terme, de santé.
Je pense que Christian Gourcuff, de toute façon,
mais le qui long a terme maintenant, Athem Ben Arfa, non, c'est ça la vraie question. Qui le veut?
Bah à la base c'est Kita. Après Christian Gourcuff il s'est exprimé, il a plutôt dit que il était plutôt favorable. Après c'était pas la déclaration d'amour absolue. Mais
il était pas contre.
Voilà, donc en tout cas les discussions sont là, ça peut se faire, mais moi je crois pas à Gourcuff sur le long terme maintenant. De toute façon, il y a Gourcuff, Kita, et là vous rajoutez Ben Arfa. A priori, il y a peu de chances que ça.
Pourquoi il est pas contre aussi? Parce qu'il faut aussi prendre. Enfin, je veux bien qu'on passe une demi-heure à parler de Kita et tous ces jeux de pouvoir. Pour moi, Gourcuff, c'est pas juste qu'il accepte parce qu'il a un chef et qu'il suit des ordres. Pour moi, il y a également un besoin. Quand on voit les postes où Ben Arfa pourrait évoluer,
mais quand même besoin, Cindy, c'est que si Ben Arfa il joue bien au foot à partir du mois de mars, c'est trop tard.
Qui a dit ça à chaque fois? On entend, et c'est ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois, on entend la même musique.
Mais Cindy, pardonne-moi, mais la même musique. Heureusement, quand t'as pas joué pendant six mois, en général, t'es pas prêt tout de suite.
Par rapport au FC Nantes, du coup,
faut pas
au niveau
avoir
de
du mépris
la défense,
pour ce que les gens disent, Majer.
Ils sont un bloc défensif qui est quand même super fort. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque quelque chose, un élément offensif au niveau du milieu plutôt offensif. Là, ils ont qui? Ils ont Blas. Quel match il a fait récemment? Donc, il faut vraiment quelqu'un qui vienne appuyer, qui puisse donner un peu d'intensité et ramener. Parce que même s'il a pas joué sur les terrains, et je partage parfois vos doutes en disant s'il a pas joué sur les terrains, il n'est pas habitué, il peut avoir du mal, il peut apporter de l'intensité.
C'est l'effet.
Au niveau, c'est ça.
Un joueur blessé, quand il a arrêté 4 mois ou 5 mois, il lui faut 5 mois
pour
revenir.
Mais on dit la même chose par rapport à Benedetto. Il n'est pas énorme.
Juste un élément quand même, dans ce débat, tous les joueurs ne sont pas égaux devant l'activité,
devant la reprise,
etc. Donc voilà, la carrière d'Athem Ben Arfa, elle est déjà faite. On a quand même des éléments pour pouvoir quand même se prononcer sur ce qui s'est déjà passé dans le passé, etc. Donc c'est pas quand même extrêmement positif et on a le droit d'avoir des doutes sur ce qui va se passer par la suite.
Alors, c'est surtout que si tu parles,
si je veux aller dans ton sens, en me disant que le joueur va revenir au bout d'un mois et demi, deux mois, ce sera la trêve, mais je vais aller dans ton sens. Dans deux mois, c'est un crack. Les joueurs à qui ça arrive ça?
Mais t'as pas besoin d'un crack là, t'as besoin au moins d'un joueur qui fasse les jobs.
Les joueurs à qui ça arrive ça, c'est ceux qui, dans leur mental, sont des tueurs. Mentalement, sont des bêtes. C'est comme Cavani. Ben Arfa, il est loin d'être un tueur mentalement. Il l'a prouvé plusieurs fois que mentalement, il était très, 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 très faible. Plusieurs fois, il l'a prouvé. Donc pour moi, il sera là au mois de mars, au mois de février. Il fera des trucs. Peut-être s'il signe à Nantes, il fera. Mais la saison, elle sera finie. Et vous, je vous pose une question à tous. Est-ce que vous pensez que Ben Arfa, son club, son rêve, c'est d'aller à Nantes?
L'état d'esprit
de Ben Arfa, qui est sur Paris en ce moment, à faire sa salle de sport, à jouer avec des potes au Five, vous pensez qu'il dit à ses potes, moi, mon rêve, c'est d'aller à Nantes?
Non, mais dans ce qu'il a aussi, il a quoi là sinon? On l'avait pressenti en Espagne. Pour moi, il aurait dû aller peut-être en Espagne. Ça combine mieux avec son jeu.
On va finir sur Ben Arfa.
Les Espagnols sont pas fous, Cindy.
Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est vrai que c'est. On verra comment ça se passe.
Et
surtout, la vraie question, c'est de savoir quand Ben Arfa, s'il venait à Nantes, serait opérationnel pour aider le FC Nantes à aller bien.
À 33 ans.
À continuer à aller bien. Il a gagné un an.
Il a dit 32 tout à l'heure, il sera prêt à 33 ans.
Ah oui, d'accord.
Il est du mois de mars.
Ça, on en sait.
On va finir avec Marc. Marseille, Marseille-Lille, s'il vous plaît, avec Hugo Hamelin. Toujours 2-1 pour les Marseillais.
Les deux dernières minutes du temps réglementaire et Marseille qui ferait un bon classement si ce score était validé. Si ce score était définitif, puisque je crois qu'il, vous allez me confirmer ça, mais il bouterait les Lillois hors du podium et prendrait la troisième place. Alors qu'ils étaient 7e au coup d'envoi, les Marseillais, c'est vraiment une bonne opération pour eux. Ce serait seulement la deuxième victoire sur les 7 dernières rencontres de championnat. J'enlève le match à Monaco cette semaine. Voilà, là le match est équilibré, c'est un peu Fornox du côté de l'Olympique de Marseille. On tente de résister, de conserver ce petit but d'avance inscrit donc par Gabriel, but contre son camp du Lillois. Et la réduction du score a été signée sous Mauro à la 82e. Ça y est, on entre dans la dernière minute de ce temps réglementaire. Camara en position de sentinelle justement qui dégage et qui est contré. Touche pour les Marseillais au niveau de la ligne médiane. A noter qu'à part une banderole direction d'émission qui est sortie de la part du virage sud, mais plutôt de manière traditionnelle, on va dire, il n'y a pas eu de protestation particulière. Le public est toujours derrière son équipe hein, et ça peut paraître intriguant parce que Marseille est sur une très très mauvaise série.
On reste avec vous hein, jusqu'à la fin de cette rencontre, Hugo. Ça va bientôt se terminer. Marseille qui mène 2-1, on ne sait jamais s'il y avait un contre Lillois.
Exactement, ouais, c'est arrivé. À noter le bon match de Jordan Amavi hein, sur son côté gauche qui a pas pris de pincettes, qui a dégagé pas mal de ballons, mais qui au moins n'a pas mis son équipe en danger.
Amavi fait un bon match là.
Attendez, c'est pas fini.
Voilà, c'est ça. Entrée de Kevin Strootman, le plus gros salaire de cette équipe qui était sur le banc donc au coup d'envoi. C'était un choix fort d'André Villas-Boas. Il remplace Valentin Rongier. Ballon pour les Marseillais dans la moitié de terrain. Lilloise, petit jeu à 3 avec Maxime Lopez, Dimitri Payet et Benedetto qui récupère le ballon, point de pénalty, mauvais contrôle de la part de l'Argentin qui nous a encore gratifié de talonnades assez sympathiques dans le match hein, même si c'est pas efficace à chaque fois, ça a le mérite de faire lever le public. C'est le spectacle et c'est aussi pour ça qu'il y a 50 000 spectateurs, supporters même ce soir au Stade Vélodrome. Fin de match un petit peu tendu hein. On rappelle qu'il y a eu un adjoint de
Christophe Galtier.
Christophe Galtier qui a été expulsé. Alors c'est pas Thierry Oleksiak puisque je l'ai vu ensuite sur les images. C'en est un autre. C'était sur l'ouverture du score.
C'est l'entraîneur des gardiens qui a été exclu, Hugo.
Très bien. Un dernier ballon, une longue balle pour Osimhen, mais il est bien pris par la charnière centrale marseillaise. Est-ce que Maxime Lopez va pouvoir récupérer ce ballon? Non. Ballon pour les nordistes. C'est écarté côté droit avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba avec Amavi qui se craque justement. La petite passe de Bamba. Ça va être un centre désormais pour les Lillois. Point de pénalty, la reprise d'Osimhen. Ça passe au-dessus de la barre transversale sous les clameurs du virage nord. Et là, il y avait vrai danger hein, parce que c'était reprise de volée d'Osimhen, point de pénalty. Heureusement qu'il n'avait pas le corps assez penché, on va dire, pour rétablir ce ballon. Il est un peu derrière lui ce ballon et il glisse même sur son pied d'appui, Victor Osimhen, et il ne peut pas cadrer ce ballon. C'était peut-être la dernière cartouche du côté des Lillois. C'est Mandanda qui va se dégager. On est entré dans les derniers instants dans les arrêts de jeu de cette partie. Il y aura 5 minutes d'arrêt de jeu, peut-être à cause du léger cafouillage qu'il y a eu dans le but de Mandanda après la réduction du score lilloise, avec un carton jaune justement pour Victor Osimhen. Ça a été un match quand même assez brouillon hein, surtout en première période, avec pas mal de fautes, pas mal de passes qui n'arrivaient pas, et ça s'est amélioré un peu dans cette seconde période, même si les Lillois sont très timides. On se rappelle d'eux l'année dernière face à Marseille, ils les avaient martyrisés sur les deux matchs à Pierre-Mauroy et ici au Vélodrome, et c'est plus vraiment la même équipe que la saison dernière hein. C'est assez criant.
Mais Hugo, en cas de victoire marseillaise, les Marseillais font une très très belle opération.
Ils sont deuxième ou troisième?
Troisième
ouais. Derrière Nantes. En attendant bien sûr, alors parce que le classement est très serré en haut du tableau, en attendant les matchs des autres équipes, puisque beaucoup d'équipes peuvent encore leur passer devant. Maignan qui va dégager son camp, il est sorti de ses buts à 40 mètres de ses cages pour un dernier ballon dans la surface de réparation marseillaise. Récupération de Morgan Sanson, non, de Radonjić. Radonjić ouais, qui part tout droit et qui va se faire chipper ce ballon. 2 minutes 30 déjà dans les arrêts de jeu de cette partie. Il en reste tout autant à jouer encore pour les Marseillais qui vont tenter de résister et pas encaisser ce but qui serait synonyme d'égalisation. Il va falloir être fort mentalement Récupération des joueurs de Villas-Boas, la petite talonnade de Radonjić pour Strootman. On est dans la moitié de terrain marseillaise, les Marseillais qui ne s'en sortent pas. Récupération lilloise, nouvelle ouverture pour Jonathan Bamba dans l'entonnoir. C'est compliqué, c'est contré d'ailleurs par Strootman et c'est la dernière contre-attaque marseillaise avec Maxime Lopez. Maxime Lopez qui décale côté gauche pour Dimitri Payet. Dimitri Payet entrée de la surface de réparation qui remet pour Maxime Lopez. Il est tranquille, le minot, il frappe et c'est à côté. Ah, il avait le but ouvert là, il était seul à l'entrée des 16m50, le plat du pied, c'était peut-être un petit peu trop lisible pour Mac Maignan et c'était surtout pas cadré, ce qui fait que le ballon est rapidement dégagé par les Lillois. 1 minute 30 encore dans ces arrêts de jeu. Jonathan Bamba côté droit de l'attaque lilloise, les joueurs de Fabien et de Christophe Galtier qui donnent tout dans cette fin de match pour tenter d'arracher l'égalisation. Arroyo entrée de la surface pour Bamba qui décale à droite, c'est compliqué là, ils sont tous autour de la surface de réparation marseillaise mais il n'y a personne pour tenter le tir et c'est finalement Mandanda qui va récupérer cette balle, qui va prendre tout son temps forcément le capitaine marseillais avant de se dégager, ouais, même attendre les 6 secondes réglementaires avant de prendre ce ballon dans les bras. Le public derrière nous, vous l'entendez, ils sont venus encore nombreux, 50 000 spectateurs à peu près, on n'a pas le chiffre exact, mais les tribunes du Vélodrome sont encore bien garnies. Long dégagement de Mandanda pour Dimitri Payet. On arrive tout à côté du poteau de corner, il va manquer son contrôle, le Réunionnais. 6 mètres pour Mike Maignan, et cette fois-ci, c'est la dernière. Il reste 40 secondes. Les Lillois qui montent tous dans la moitié de terrain marseillaise. Ils sont 5 là sur une ligne d'attaquants. C'est assez mal dégagé de la part de Mike Maignan, un peu trop loin. Tête de la part de Douyeka et Takar. Osimhen qui est serré de près par Hiroki Sakai. Récupération quand même Lillois. Ça va donner peut-être un dernier centre sur le côté gauche. Là il est à la lutte Arroyo avec Hiroki Sakai. Nouvelle récupération des joueurs de Galtier. Le centre pour Osimhen. Récupération d'Osimhen. Le contrôle. Il est parvenu à contrôler ce ballon alors qu'il était au milieu des deux défenseurs centraux, mais arrêté, sa frappe passe encore au-dessus de la barre transversale de Steve Mandanda. On a franchi la barre des 5 minutes d'arrêt de jeu et sur le 6 mètres de Steve Mandanda, on s'attend à avoir le coup de sifflet final de l'arbitre de cette rencontre, monsieur Benelage. Voilà, c'est terminé. Victoire marseillaise, 2-1, victoire petit bras parce que c'est deux buts extrêmement chanceux de la part des Marseillais qui ont eu peur d'ailleurs jusqu'au bout.
Merci beaucoup Hugo Hamelin pour cette soirée passée avec vous. Marseille qui bat Lille, victoire importante pour les Marseillais. 2-1, on se retrouve dans quelques instants pour les deux dernières minutes d'en fait le match. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Quand j'ai rencontré Philippe.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avant de se quitter, mademoiselle, messieurs, un petit tour européen. J'ai vu que le Barça avait pris cher, hein, Levante 3-1. Le Bayern qui se fait cartonner 5-1. David Aiello, d'Yahoo Sport, un sentiment là-dessus. Des grands d'Europe comme ça qui se font battre par des...
Ils ne sont pas invincibles non plus. Hein.
C'est comme le PSG.
Bah, oui, enfin, je veux dire, on ne va pas se mettre à juger sur un match, une contre-performance.
Non, mais le problème du Bayern, c'est que le Bayern est 5e ou 4e.
Oui, voilà, c'est assez là, serré.
Je pense que l'entraîneur, pour le coup,
c'est difficile
il peut vite
faire
être
un lot avec les grands. Parce que bon, les grands ont des fortunes diverses. Quoi.
La vraie difficulté là, c'est que le Barça a quand même perdu Luis Suárez, leur attaquant. Il a été blessé pendant les matchs du Barça contre Levante. Donc moi, les scores, bon, c'est difficile, c'est dommage, mais c'est surtout cette perte là pour les Barça qui est très embêtante.
Griezmann était titulaire. Pas fait grand chose hein, parce qu'il n'a pas pu éviter la défaite. Donc, est-ce qu'on sent que ça se complique encore? C'est pas encore vraiment. Il n'y a pas de lien avec Griezmann. On sent qu'il y a un conflit qui n'est pas naissant parce qu'il dure justement. David Aiello.
Une semaine difficile pour lui. Son voyage aux États-Unis, non titularisé ensuite en semaine.
Il n'est pas malin sur cette affaire.
Ouais, il est pas malin.
Aller faire un week-end aux États-Unis.
Que, bon, j'entends qu'il l'a toujours fait, etc. Ok, mais dans sa situation actuelle, c'est quand même pas la meilleure chose à faire et le meilleur signal à envoyer. Quoi.
Sébastien Tarrago, l'équipe.
Malheureusement, je pense pas qu'il y ait de haine contre Griezmann. C'est pas ça. La seule chose, c'est que sur le terrain, ça se voit. Et le terrain parle que les autres n'ont pas très envie de jouer avec lui. Alors j'espère pour lui que ça va s'améliorer, qu'il va faire le nécessaire pour que ça s'améliore. Mais pour l'instant, c'est quand même cruel de le voir faire des appels en vain. Bien souvent.
Peut-être des automatismes aussi qui ne sont pas encore créés. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas jouer avec lui. N'importe qui, je pense, voudrait jouer avec Griezmann parce qu'il apporte quand même énormément au collectif. Moi, je pense que c'est plutôt lié à des automatismes qui peuvent arriver en jouant.
Christian Olivier, bonsoir.
Madame,
Messieurs, bonsoir, comment allez-vous?
Et vous?
Alors,
et vous
le sondage Doxa RTL Groupama, combien de Français pour remplacer Denis Balbir à la place de...
50, il paraît.
50-50. Je crois qu'il y en avait qu'un seul.
C'est deux de la voyance, tout ça.
C'est... Sébastien Tarrago, attention.
Alors, gros multiplex, grosse soirée.
Oui, grosse soirée, bien sûr. Toulouse-Lyon, Amiens-Brest, Angers-Strasbourg, Nîmes-Rennes et Metz-Montpellier, avec également tous nos rendez-vous classiques. Et à 22h05, c'est maintenant une nouveauté, mais bien installée sur l'antenne de RTL, c'est le 5 à 7, n'est-ce pas? Le 5 à 7 ce soir,
Laurent Nunez,
c'est son 5 à 7, 5 à 7 minutes d'interview, d'infos, d'indiscrétions et coulisses. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, on parlera évidemment des supporters, de leurs déplacements, des fumigènes, de l'homophobie et du racisme.
Multiplex avec Giovanni Castaldi et Philippe Sansfourche notamment.
Évidemment, notamment et pas seulement, et tous nos correspondants.
Et Quentin et tous les correspondants qu'on salue. Très bonne soirée sur RTL.
Merci.
À bientôt.